De fil en ville. Moi c'est Clara. Voyager c'est sympa, mais voyager tout en trouvant des solutions pour notre planète, c'est super sympa. Alors partons ensemble pour découvrir de nouvelles cultures, musiques et expériences culinaires, tout en se préoccupant de la planète. Allez, montez dans mon sac, je vous ai fait de la place.
De fil en ville, départ immédiat.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de De fil en ville. Aujourd'hui, j'ai le cœur lourd car je m'apprête à quitter ma ville, Blois. J'aimerais faire un dernier tour car il est vrai que c'est une belle petite ville gorgée d'histoire, mais vu qu'elle fait partie de mon décor quotidien, je n'y fais plus vraiment attention. C'est pour ça que je vous embarque avec moi pour un petit tour de Blois avant de commencer mon grand voyage. Je suis sûre que vous connaissez bien Blois, donc ce sera plus facile pour vous de vous imaginer où je suis. Allons-y! Je suis rive gauche, devant moi il y a une magnifique vue sur le centre-ville de Blois. Derrière moi, quelques restaurants et même coiffeurs. Vous l'avez deviné, je suis à Blois-Vienne. J'aime beaucoup venir ici pour observer la ville et la Loire. Ce fleuve qui peine à retrouver son niveau d'eau à cause des sécheresses de cet été. Et pourtant, il a subi quelques crues quand même, la dernière datant d'il y a quelques années. Mais la ville ne s'est pas laissée faire, ou plutôt Eugène Riffaut, l'ancien maire, a pris les choses en main. En effet, suite à la crue du 3 juin 1856, la plus importante d'origine atlantique due à un réchauffement tardif, profitez d'entendre ça, c'est la dernière fois que vous l'entendez. Enfin bref, un réchauffement tardif, suivi d'un automne très humide et d'un hiver pluvieux. Le maire a alors décidé de protéger la ville basse, soit Blois-Vienne, qui a toujours été victime de crues en renforçant et en rehaussant les levées. Ce fut une victoire pour Eugène Riffaut, confirmée par la crue de 1866. Il avait même écrit « Le faubourg de Vienne n'eut pas une seule goutte d'eau, même aux points les plus bas de la Chaîne et de celle de Chalons. » Des vitraux représentent même cette victoire. La Loire a aussi été traversée par de nombreux bateaux de marchandises, on a des gravures qui témoignent de ce commerce, jusqu'à ce que les trains cachent cette dynamique et en imposent une autre. Bon, allez, maintenant, levons la tête pour admirer cette magnifique vue. Si on regarde un peu vers la gauche, on voit la basilique Notre-Dame de Trinité. La construction a été pleine de rebondissements. À l'origine, c'est en 1931 que l'archconférie des trois Ave Maria avait envisagé la construction avec l'accord de l'évêque de Blois. Charles-Henri Besnard commence le chantier d'une église dans un style moderne en béton en 1932. Mais le chantier est arrêté en 1934 à cause de difficultés. Ensuite, Paul Rouvière reprend le chantier en 1936 et termine le gros de l'œuvre avant d'être tué en 1939. 10 ans plus tard, Yves-Marie Froidevaux termine l'œuvre. Et c'est le 16 juillet 1949 que la basilique ouvre au culte. Son carillon est constitué de 48 cloches et est considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. Oh, et regardez tout droit, on voit la cathédrale Saint-Louis. Au début, elle était la collégiale Sainte-Solène. Mais suite à l'ouragan de 1678, on a construit un nouvel édifice dans un style gothique mêlé au classicisme. Du coup, l'église est élevée au rang de cathédrale alors que Louis XVI est roi et c'est pour cela qu'on l'a nommée la cathédrale Saint-Louis et qui est actuellement réputée pour ses vitraux. On ne le voit pas vraiment, mais à côté, il y a le jardin de l'évêché. C'est selon moi l'endroit le plus reposant de la ville. Après mon lit, évidemment, ça ne compte pas. Assez admiré, empruntons le pont Jacques-Gabriel pour rejoindre la rive droite. Saviez-vous que ce pont a été construit suite à l'effondrement du pont médiéval le 6 et 7 février 1716 ? C'était le seul passage entre les deux rives, il était capital pour la ville, donc on a dû mettre en place une passerelle piétonne jusqu'à ce que Jacques-Gabriel, sous les ordres de Gaston d'Orléans, finisse de construire ce pont. Waouh, je crois que je me lasserai jamais de cette vue sur les escaliers de Denis Papin, peint en Joconde pour fêter les 500 ans de Léonard de Vinci. Il y a même la statue de Denis Papin sur sa tête. Elle a été réalisée en son honneur comme le nom de la rue et le nom de l'escalier. Car il était de Blois et plus précisément de Chitney et qu'il était un grand chercheur réputé pour ses travaux sur les machines à vapeur. Ah, Mais c'est que sur le pont Jacques Gabriel, la Joconde avait une autre allure, hein. Là, elle a un peu la tête écrasée. Mais bon, passons. On va passer devant le comptoir irlandais de Blois, la boulangerie La Margot et tous les autres magasins pour s'arrêter au bar de la Fontaine. Pas pour boire un coup, même si je ne dirais pas non à un bon diabolo, mais pour la fontaine Saint-Jacques construite en 1511 dans le style gothique flamboyant et original de Louis XII, dans le but d'apporter plus de confort à ses sujets. Qu'ils étaient gâtés, dis donc. Avançons pour aller place du château. Ah, nous y voilà. À ma droite, un petit jardin sympa pour manger le midi. En face de moi, le beau château de Blois, au petit défaut que tous les Blaisois connaissent par cœur, car on n'arrête pas de leur répéter que le sculpteur de la statue de Louis XII sur son cheval a été pendu après l'avoir réalisé, car logiquement, comme il l'est fait, le cheval tomberait. Hormis ce petit défaut, c'est un château 4 en 1 tout de même, ne l'oublions pas, grâce aux 4 ailes du château appartenant à des époques différentes. La première aile appartient au XIIIe siècle, qui est le reste de la forteresse médiévale, où on y avait plus tard installé la salle des états généraux. La deuxième aile est appelée l'aile gothique de Louis XII. Il a souhaité transformer la forteresse en un palais urbain pour recevoir ses invités. Décidément, la fontaine, l'aile... Louis XII, c'était vraiment un bon pote, hein. Actuellement, l'aile est dédiée aux beaux-arts. Ensuite, François Ier voulait continuer les travaux de ses ancêtres en faisant honneur à la mode italienne tout en ajoutant la French touch. Et la dernière, elle, est celle de Gaston d'Orléans qui voulait tout refaire à neuf, mais les travaux imaginés par l'architecte François Mansart ont été arrêtés à cause d'un manque de financement. Les travaux réalisés sont dans les goûts du XVIIe siècle, soit classique qui annonce le style de Versailles. Ici, il y a eu de nombreux événements historiques. Dans les plus connus, il y a l'assassinat du duc de Guise. Cet homme qui défendait la foi catholique a été tué ici par les états généraux de Blois, qui pour rappel sont une assemblée qui regroupe les trois ordres à la demande du roi, dans laquelle ils débattent des affaires du royaume. Et c'est ainsi que la mort du duc de Guise est fixée au 23 décembre 1588 et celle de son frère au lendemain. Mais comme vous le savez peut-être, ça n'a rien changé et a empiré cette guerre des religions. Ah ! Qu'est-ce que j'entends ? C'est les dragons, ils sont sortis ! C'est amusant. La maison de la magie change quasiment que ses spectacles, mais à chaque fois que j'y vais, je suis émerveillée par tout. Et bien évidemment, j'adore l'attraction du 4e étage que je redoutais tant quand j'étais petite. Ah, la belle statue de Robert Houdin aussi, à qui la maison de la magie rend hommage. C'était un horloger de formation, né le 7 décembre 1805, pas loin de Blois. Il est connu pour ses talents de prestidigitateur et manipulateur, et aussi en tant que scientifique. Rappelez-vous, on lui doit le compteur électrique, la lampe au filament végétal, et j'en passe. Bon, et si on descendait pour rejoindre la gare, tout en parlant des personnages qui ont marqué la ville ? Bon programme, non ? Bon alors, si je vous dis chocolat, vous devinez Auguste Poulain, qui est né à Pont-le-Voix en 1825. Après avoir pris ses marques auprès des plus grands dans la capitale, il est revenu à Blois et il a ouvert sa chocolaterie, puis sa première usine en 1862. Il est l'un des premiers à avoir fait la publicité. Oula, mais je suis en retard, moi. Quand je parle, je mets 10 fois plus de temps. Alors, écoutez, on va faire un truc. Je vais vous laisser avec Imagine-toi, une chanson de Camille Esteban, une chanteuse qui a participé à The Voice et qui est du coin. Comme ça, vous découvrez pour certains et d'autres, bah, vous redécouvrez. Et moi, je vais prendre mon train et on se rejoint une fois que je suis installée. A tout de suite!
Je veux contempler cet horizon qui s'éteint si vite, oui, bienvenue dans ma vie. Les nuages dessinent des sourires, j'en oublie mes soucis. Je me dis pour attraper ce temps, faut que je me mette à courir. Imagine-toi, cette longue route qui nous attend, elle est douce, mais pleine de doutes. Et peu importe les coups, viens, on part en balade, en balade, en balade, en balade, en balade.
On contemple l'avenue comme quand on avait 15 ans et qu'on découvrait le lycée, les clubs et les gens. Qu'on se prenait pas la tête, oh, leur gentiment vient, on lâche la pression et on prend le bon chemin. J'ai comme l'impression, plus je marche, plus je me rapproche de demain. Et apprécions la douceur de cet air. Et apprécions ce qui sait que nos routes diffèrent. Quand je nous compare au ciel, trop de rêves cachés par la tristesse. Je tape des insomnies, il me reste plus qu'à relever la tête. Oui, ça m'arrive de m'arrêter, de délirer sur les étoiles. Et puis je me dis, en fait, je me trouve petit quand je nous compare au ciel. Imagine-toi, cette longue route qui nous attend, elle est douce, mais pleine de doutes. Et peu importe les coups, viens, on part en balade, en balade, en balade, en balade, en balade.
Chemin en part.
De ville en ville. Maintenant, place à l'écologie blésoise. J'ai trouvé des problèmes écologiques autour de la Loire et plus précisément autour des bords de Loire. En effet, la Loire, comme tous les fleuves, mers et océans, est victime de pollution. Des déchets plastiques, par exemple, se trouvent dans son eau. Mais ces déchets ne restent pas à vitam aeternam dans la Loire. Il est vrai que lors d'une balade sympathique à pied ou à vélo au bord de la Loire, ce que je vous conseille, le paysage pourrait être gâté par des déchets échoués. Mais par chance, la ville de Blois est consciente de cette problématique et met des projets en place. Ainsi, des journées appelées journées citoyennes sont organisées. Lors de ces moments, un groupe d'hommes et de femmes bénévoles et motivés se rendent sur le bord de Loire pour ramasser les déchets. Merci infiniment à toutes ces personnes. C'est une belle initiative de la ville. Et pas la seule. Depuis 2012, la ville de Blois est passée au zéro pesticide. C'est-à-dire que pour l'entretien de ses parcs, voiries et jardins, les agents n'utilisent pas de pesticides style désherbant. Néanmoins, il reste quelques efforts à faire pour qu'elle n'ait plus de contact avec les pesticides, car certains de ses terrains et cimetières sont toujours traités. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, la ville dispose de grands réseaux de bus, dont un bus électrique qui fait le tour de la ville gratuitement. Mais attention, la ville n'est pas la seule à mettre en place des projets pour préserver la nature. Nombreuses sont les associations, organisations et entreprises blésoises à limiter leur impact sur la nature. Comme le Comité de protection de la nature de l'environnement depuis 1972, qui participe à la protection des environnements. Que ce soit par la prévention auprès des enfants par le biais d'activités ou même de stages, ou bien par l'accompagnement des collectivités ou entreprises qui souhaitent rendre leur activité plus responsable. En tout cas, c'est une belle ville remplie d'histoires qui tente de réduire tant bien que mal son impact écologique. Mais n'oublions pas que la meilleure façon de lutter activement contre la dégradation de notre planète passe par nous, citoyens, en faisant des actions simples quotidiennement. Comme limiter les trajets de voiture quand d'autres options s'exposent à nous, pratiquer le tri sélectif, prendre moins de 5 minutes par semaine, ou plus simplement, ne pas jeter ses déchets n'importe où. Ah, mon autre train. Je vous remercie d'avoir suivi mon émission, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à dans un mois pour un voyage estonien. De ville en ville. Moi c'est Clara, voyager c'est sympa, mais voyager tout en trouvant des solutions pour notre planète, c'est super sympa. Alors partons ensemble pour découvrir de nouvelles cultures, musiques et expériences culinaires, tout en se préoccupant de la planète. Allez, montez dans mon sac, je vous ai fait de la place.
De ville en ville vous remercie et espère que ce voyage vous a plu. À très bientôt.